le Max Sport avec Loïc Colombier et toute son équipe.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time.
Et bonjour chers amis sportifs, bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour votre Max Sport du 19 mai 2020. Aujourd'hui au sommaire, on va avoir deux interlocuteurs de choix, voire même de luxe, puisqu'on aura Henri Broncan, le sorcier gersois, notre maître Yoda du rugby, et Jean-Christophe Bacca, une légende jaune et noire qui fait maintenant le bonheur du Sporting Club Groyétois, un autre bastion de l'Ovalie du Sud-Ouest. Avec Henri Broncan, on reviendra sur l'actualité bouillante du rugby depuis ce début de la crise coronavirus. Pêle-mêle, Henri nous parlera de l'actualité avec le Sporting Club Albigeois, cette montée ou non en Pro D2, sa vision aussi de la Ligue Nationale de Rugby qui se referme comme une huître sur elle-même, mais aussi du rugby gersois qu'il aime par-dessus tout avec passion et avec verve. On parlera aussi du dossier Béziers où on a entendu une possibilité de rachat via des fonds Emirati et Christophe Dominici, puis on parlera aussi de sa vision du futur pour un sport qu'il aimerait avec une âme et qu'il sache faire perdurer certaines valeurs. Avec Jean-Christophe Bacca, je ne vais pas vous mentir, on sera un petit peu dans le même registre, mais plutôt centré sur l'actualité locale. On entendra Jean-Christophe Bacca nous parler bien sûr grandement du Sporting Club Albigeois, de comment il voit les adversités qui s'avancent face au Sporting Club Albigeois pour monter en Pro D2. On le sait, rien n'est joué encore pour le Sporting Club Albigeois, mais on le voit en face du Sporting, il y a une sorte de molle qui s'est montée de la Ligue Nationale de Rugby qui ne veut pas entendre parler de cette montée d'Albi et de Massy. Jean-Christophe Bacca nous donnera son avis, il nous donnera aussi son avis sur la réforme de la Fédérale 1, Pro D3 ou pas Pro D3, Fédérale 1 à l'ancienne ou Fédérale 1 nouvelle mouture, et puis bien sûr, il nous parlera du mercato et de l'avenir pour le Sporting Club Groyétois, ce club qu'on aime tant à Radio Albigès puisqu'il fait partie de notre département et qui porte certaines valeurs. Allez, on va de suite commencer cette émission en vous faisant écouter notre interview, notre entretien grand format avec monsieur Henri Broncan.
No sei fallo sono, caio che l'incantato, calavere passaggio che mi piace tu mattia dal rei. No sei fallo sono, caio che l'incantato, non impasti pensare la noi e che lo di la noi. Io tu stai in cabeza a e dice no e dice di
On est avec Henri Broncan, notre sorcier gersois préféré. Henri, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Voilà.
Henri, on vous avait eu en tout début de cette crise, de cette pandémie coronavirus. On avait senti en vous, pour une certaine inquiétude légitime, une prise de conscience comme toute la France du danger sanitaire qui guettait. Là, on voit les nuages. On va dire s'évaporer, ça fait du bien. J'imagine que vous avez pu un peu prendre l'air et vous aérer l'esprit dans votre Mirande natale.
Oui, bien entendu. Enfin, il faut dire que non, j'étais confiné à Saint-Martin, c'est-à-dire là où j'ai la maison, la mienne, si vous voulez. Alors que j'habite à Miramont d'Astarac, à côté de Mirande actuellement, je suis revenu là parce que tout simplement, c'est la maison de ma mère. Ma mère qui est à l'EHPAD de Mirande, c'est pour ça que je me suis rapproché d'elle et que d'ailleurs je suis venu entraîner, quand elle est rentrée à l'EHPAD, c'est là que je suis venu entraîner, maintenant je ne suis plus que manager. l'équipe de l'entente Miranda Milan. Voilà.
Oui, allez-y Henri.
Non, non, c'est-à-dire, voilà, j'ai passé 2 mois donc à Saint-Martin, j'ai retrouvé un pays que j'apprécie beaucoup, que j'avais quitté en 1998, quand j'ai commencé à circuler dans le monde du rugby professionnel, et je l'ai revu avec, j'ai revu Saint-Martin avec, bien sûr, beaucoup de plaisir, quoi, voilà.
Et puis, ce confinement a ramené peut-être aussi à des vertus un peu plus ancestrales, à un mode de vie qui devait vous rappeler votre jeunesse un petit peu.
J'ai d'abord beaucoup apprécié les voisins, quoi. Quand on a un peu de temps, là, on peut rediscuter, on peut évoquer les souvenirs, on peut évoquer. Il y a eu beaucoup d'entraide. Je crois qu'à Miranda, c'était pareil d'ailleurs, dans le département du Gers. Et je pense que dans le Tarn, ça a été la même chose. Il y a eu beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité dans les événements qu'on a vécu. Et d'ailleurs, ça continue. Hier, j'étais à Miranda et je sens que les gens sont très responsables, portent le masque, etc. Il y a pas beaucoup de monde encore dans les rues. Voilà. Les Gersois sont restés, je pense, ont été exemplaires pendant cette période-là, quoi. Enfin, ailleurs, sans doute aussi, mais enfin, je trouve que les Gersois se sont très bien comportés. Voilà.
Alors, cette solidarité, c'est un peu comme sur un terrain de rugby, comme dans un groupe de rugby. Il va falloir continuer à la cultiver. Et ça me permet de faire une passerelle dans l'adversité face au coronavirus. On va dire que la nation française a essayé de faire Pâques.
Oui, oui, bien entendu. Je crois quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits un petit peu par tout le monde. Voilà. Après, c'est pas, c'est pas encore tout à fait gagné, quoi. Il faut rester très vigilant. C'est comme un match où vous êtes sur le point de le gagner, mais si vous n'avez que peu d'avance, il faut continuer à rester justement vigilant et faire attention, quoi. Voilà, il faut continuer à faire attention pour ne pas être obligé de revenir en arrière, quoi. Voilà. Après la solidarité, je crois qu'il y en a eu quand même pas mal dans le pays. Il ne faudrait pas que le déconfinement, justement, relance tous les égoïsmes, etc., et que chacun se remette à penser à soi. Quoi. Voilà. Mais vous le savez, il y a des personnes qui se sont mises encore plus en avant dans ce pays. Bien sûr, on parle aux infirmiers, au corps médical, aux aides-soignantes, etc. En fait, tout ça, il y a eu des gens formidables. Il y a aussi ceux qui ont travaillé dans les magasins, etc. Beaucoup de gens ont pris des risques. Et c'est très bien aussi.
Alors, le coronavirus, en plus d'avoir mis une grosse inquiétude, vous a privé de votre drogue, de votre passion, c'est le rugby. J'imagine que malgré tout, vous avez gardé un œil acéré sur ce qui se passait dans le rugby. Qu'est-ce que vous en pensez en général
Écoutez, un peu amer quand même, hein, parce qu'on a senti de la part du rugby professionnel... Justement, je parlais des égoïsmes, on a senti, c'est un petit peu décevant quand même de voir la façon dont les clubs du top 14 ont voulu préserver leurs 14 places, là, ceux de la D2, leurs 16 places, je crois qu'ils sont de plus en plus coupés quand même de notre monde amateur, qui, je le rappelle, c'est celui qui quand même leur fournit les joueurs, quoi, c'est dans le monde amateur que ces joueurs-là, la plupart des joueurs pro débutent, et on est un petit peu déçus parce qu'on a senti, qu'ils pensaient à eux, et puis tant pis pour les autres, quoi. Voilà, ça a été un petit peu décevant, voilà. Après je pense aussi que le fait de ne faire descendre personne, de faire monter des clubs, c'est pas mal de démagogie, ça sent des élections, c'est pas le bon côté du rugby qu'on a vu quand même si beaucoup de joueurs et de dirigeants se sont impliqués pour aider justement les personnels des EHPAD, des hôpitaux, etc. Les joueurs ont là-dessus ont fait vraiment de très belles choses. Après, du côté de nos dirigeants, je suis quand même un petit peu inquiet de la tournure que prend le rugby actuellement.
Alors, nous, dans une chronique sur Radio Albigès ce week-end, une chronique écrite, on parlait d'une fracture sociale qui est en train de monter entre deux rugby qui bientôt vont se regarder en chaîne de faïence, le rugby amateur, le rugby professionnel. Vous corroborez, Henri ?
Je ne sais pas si on se regardera en chaîne de faïence, parce que quand même, je pense que le rugby professionnel est assez malin pour savoir que, c'est, je le répète, c'est le rugby amateur qui lui fournit ce joueur. Donc, il ne voudra jamais condamner tout à fait le rugby amateur. Mais on a quand même senti, bon, l'argent, il est pour nous, vous verrez, vous allez vivre avec des pots de banane, des choses comme ça. Ça m'a déçu, quoi. Mais après... c'est peut-être parce que je suis vieux jeu, un peu au bout, quoi, que je ressens cette amertume-là. Mais je me suis pas, j'ai pas quand je vois que les clubs ont refusé de faire descendre, par exemple, en top 14, le football a été, bon, on peut les critiquer souvent, mais moi je les critique très souvent, mais là-dessus, ils ont donné un autre exemple. Après, c'est quelque chose de tout à fait personnel, ça doit être tout à fait impossible. Moi, j'aurais terminé le championnat. J'aurais repris peut-être en octobre, on aurait fait les finales peut-être à la Noël, mais j'aurais repris, quoi. Moi, j'aurais fini cette saison, quitte à redémarrer l'autre beaucoup plus tard. On a le temps, quoi. On a le temps. Mais c'est un petit peu injuste ce qui se passe pour les clubs qui vont pas monter, pour des clubs qui vont, il y a des clubs qui vont rester en place alors que ils auraient dû descendre. Et c'est la même chose chez nous, hein, fédéral 2, fédéral 3, etc. Quoi. Pourquoi pas une finale à la Noël? On s'aperçoit que les finales à la Noël, quand même le final Noël jour de l'an, on s'aperçoit que il y a beaucoup de monde dans les stades, le Boxing Day, etc. Donc après je ne sais pas si ça aurait été possible, si ça serait possible de le reprendre au mois d'octobre, pourquoi on n'aurait pas fini tout simplement, et après redébuter après un temps de repos une autre saison qui se serait terminée peut-être un peu plus tard aussi, faire bien sûr, je ne sais pas si ça aurait été possible, mais ça me serait été quand même le plus juste, quoi. C'est vraiment très injuste ce qui s'est passé, quoi. Et des clubs vont monter sans avoir mérité ça, la montée, bon, après si la vérité peut-être sur leur classement, il y en a d'autres qui ne montent pas du tout, quoi. C'est le cas en particulier bien sûr d'Albi et de Massy, sans doute, je ne sais pas, puisque c'est peut-être pas encore terminé l'histoire, mais enfin, on assiste à des feuilletons rocambolesques, quoi, avec des... je pense que les supporters albigeois passent par des moments d'espérance, des moments de, au contraire, de désespoir, quoi. Voilà, c'est sûr que si on avait repris les derniers matchs, etc., pourquoi pas, quoi, pourquoi on n'aurait pas repris, quoi. Avec les mêmes effectifs, c'est normal, il faut que les joueurs aillent jusqu'au bout de leur contrat, voilà, ils allaient jusqu'au bout de leur contrat, et puis on reprenait une saison peut-être au mois de février l'année prochaine, quelque chose comme ça, en réduisant le nombre de clubs dans les poules, hein, c'est-à-dire en faisant plusieurs poules, davantage de poules et davantage de clubs pour pouvoir terminer correctement la saison, peut-être fin août ou quelque chose comme ça, mais pourquoi pas, quoi, voilà. Tandis que là, c'est injuste, quoi. C'est injuste. Même les montées de quelques classes sont injustes, quoi. On s'aperçoit que il a fallu gratter un peu loin pour trouver des clubs pour constituer des 60 de la fédérale 1. Il a fallu gratter un petit peu de loin, aller chercher les troisièmes, les quatrièmes, etc. de poules. Je sais pas comment ces clubs-là peuvent se vanter d'être montés, quoi. Voilà.
À Milan, on vous a proposé de monter?
Non, on n'était que sixième, on était trop loin, on était quand même nous trop loin, mais enfin, on allait avoir quand même, puisqu'il y avait six qualifiés, on allait avoir les phases finales à jouer, pour nous ça aurait été une grande fête, après on avait, on n'a pas à se plaindre, voilà, nous on n'était pas intéressés par la fédérale, on peut pas, hein, on est déjà très très en difficulté en fédéral 2, parce qu'on est un coin, je le répète, la Starac, qui est vraiment un coin très déshérité, un des coins les plus pauvres du Gers, mais des plus beaux, hein, quand même, attention, on a une qualité de vie exceptionnelle, quoi.
Vous êtes un des meilleurs promoteurs, Henri.
Mais non, mais parce que je le crois, quoi. J'en suis persuadé. Et puis si vous étiez avec moi aujourd'hui, puisque aujourd'hui je suis à Miramon d'Astarac, puisque ça s'appelle Miramon d'Astarac, vous verriez que c'est un pays magnifique, quoi. On se demande d'ailleurs. Tout ça, c'est la conséquence. Je le répète, moi, j'en veux beaucoup à ceux qui nous dirigent, pas maintenant, hein, ceux qui nous dirigent depuis plusieurs années. Comment des coins aussi beaux que le nôtre peuvent être je le répète, un seul kilomètre d'autoroute, on est les seuls, quand même, des seuls de France, la Creuse, la Lozère, on est des autoroutes, etc. On n'a pas un seul kilomètre. Comment on a, alors qu'il y a tout pour être heureux, quoi, ici. Voilà, on serait prêt à accueillir des entreprises vraiment sans problème. Il y a de la place, il y a de la main-d'œuvre. Les gens, je le répète, sont disciplinés. Je vous ai parlé de leur attitude pendant le confinement. En fait, c'est un très beau pays, quoi. Voilà. Et bon, écoutez, ce que je ne comprends pas, je le répète, c'est comment au niveau. Et ça, je pense, c'est la centralisation qui fait ça dans notre pays, quoi. Mettre les gens, encore les gens là où il y a tout le monde déjà, et puis des coins comme l'autre, on n'est pas un pays, on n'est pas à 3000 mètres d'altitude, quoi, vous comprenez. Peut vivre, nous, le sommet le plus élevé, la colline, le coteau le plus élevé est à 300 mètres, quoi, voilà. Et puis c'est magnifique, quoi, voilà.
Alors, on vous entend parler avec Verve de votre pays, le Gers. Le Gers, c'est son grand comeback en fédéral 1. L'année dernière, il y avait uniquement Florence en fédéral 1. Cette année, il y a Lombé-Saint-Martin et Auch, un club que vous connaissez bien, même deux clubs que vous connaissez bien, qui remontent en fédéral 1. Ça va être la grande fête du rugby gersois l'année prochaine en fédéral 1.
Ah oui, ça va. Non, mais ça, c'est formidable pour eux, quoi. Hein. C'est sûr que, d'abord, quand je disais que tout à l'heure, des clubs peut-être ne seraient pas montés, je pense que Lombès et Auch seraient montés parce qu'ils dominaient notre poule, ils dominaient cette poule-là. Ils rejoignent Florence qui est un club qui travaille, comme tous les clubs gersois d'ailleurs. Donc ils vont se retrouver à 3, c'est très bien. Et en plus, quand même, ils vont jouer également avec, vous savez, avec les Hautes-Pyrénées. L'ancien comité Armagnac-Bigorre qui se retrouve. Et ça, c'est des fêtes, quoi. Il est certain qu'on va avoir les trois gersois contre les trois pyrénéens, c'est-à-dire Lannemezan, Bagnères, et peut-être Tarbes, je ne sais pas si...
Entre parenthèses, Tarbes, tu vas la prendre trop ou non.
Voilà, exactement. Donc, 3 contre 3, les mecs dans la même poule. Et je suis sûr que les Gersois vont être extraordinairement solidaires. Parce que les Gersois, quand on se rencontre entre nous, on ne se fait aucun cadeau. Mais quand on rencontre ceux de la côté, les entraîneurs se donnent les renseignements. Il y a
une solidarité gersoise.
Très solidaires dans ces cas-là. Et donc, si cette poule, je pense qu'elle va être maintenue, ça va être un très bon moment. En plus, je crois que sans faire de folie, les clubs gersois sont en train de se, les trois clubs gersois sont en train de se renforcer doucement mais sûrement, quoi, en étant toujours très sage. Ça va être vraiment il va y avoir des après-midi avec beaucoup de monde au stade, quoi. C'est sûr. Hein.
J'imagine que si vous ne jouez pas Lombès-Saint-Martin, Lannemezan ou Auch Lannemezan, vous le manquerez pour rien au monde.
Voilà, après il faut savoir que nous allons avoir à peu près le même calendrier, mais vous savez, Auch joue très souvent en nocturne, Florence est capable d'avancer ses matchs aussi, Lombès peut en faire aussi quelquefois le samedi, et je crois que ce serait très sympa pour nous qu'il joue le plus souvent possible le samedi, parce que vous comprenez, si joue le dimanche, si vous avez un dimanche après-midi par exemple Auch Lombès et que nous jouons les Mirandais contre Aramis ou contre Riem, il n'y aura pas grand monde sur notre stade. On espère de toutes nos forces qu'ils feront le maximum de matchs le samedi. De toute façon, je suis sûr que les stades de ces trois villes seront pleins, voilà. Mais ils seront pleins aussi quand ils recevront l'Almazan, etc. Et puis on ne sait jamais, peut-être que Albi sera là. Alors là, ça va être archi plein, parce que quand même, je ne sais pas comment ça va se passer par rapport à la 3, mais il est certain que partout où Albi va, il y a du monde, quoi. Voilà, quoi. Le public veut voir cette équipe.
C'est un peu comme les Harlem Globetrotters au basket.
Et un petit peu, quoi. Et puis là-dessus, il y a la passion qui devient très très forte chez les supporters locaux et chez les, voilà, c'est essayer de mettre à terre le club phare de la poule. Ils le savent, les Albigeois, ils ont eu l'an dernier une défaite à Saint-Sulpice-sur-Lèze, qui est pas très loin du Gers d'ailleurs non plus, et puis ils ont failli perdre à Moléon. Ils savent très très bien que chaque déplacement pour les Albigeois, ça veut dire de montrer un peu l'élan, quoi. Voilà.
Alors, je ne veux pas doucher vos espoirs, mais au vu pour l'instant de la direction qui est prise, Albi aura plus de chances de jouer en Pro D3 qu'en Fédéral 1 version normale, oui. Cette Pro D3.
Oui, oui,
qu'est-ce que vous en pensez, Henri, de cette Pro D3?
Moi, il me semble
pas trop tôt de la faire.
Il me semble que la Pro D3, c'est une initiative qui date de quelques semaines, une ou deux, peut-être à peine. Mm-hmm. Et il me semble que ça se fait vraiment dans la précipitation, quoi. J'ai l'impression. Pas pour Albi. Moi, je crains pas pour Albi. Je crains pas pour Massy, Bourbourg et quelques autres, quoi. Parce que ceux-là, bien sûr, ils sont très proches de la Pro D2. On le sait, ils méritaient d'amener quand même la B2 qui allait monter. Albi, le problème, il n'est pas pour eux. Il est pour ceux qui vont vouloir les suivre, quoi. Et je n'oublie pas quand même que j'en discutais justement avec Emen Kaska, l'entraîneur d'Auch, dont on parlait l'autre jour. Auch, c'est rire les ailes, s'est retrouvé en division d'honneur après le passage dans cette fameuse Détroit il y a, ça doit faire 4 ans, quelque chose comme ça. Hein.
Et
Strasbourg, c'est arrivé pareil.
Saint-Nazaire.
Et on a vu Limoges, je crois aussi. Attention, quoi. Et je le répète, je le crains pas pour lui. Je le crains pour certains clubs qui veulent absolument essayer de tâter. Il y a de très lourds déplacements, quoi. Vous êtes obligé de partir très très souvent la veille des matchs. Alors il y a des budgets un peu solides, pas de problème, ils peuvent affronter ça. Il y a des budgets moins solides, parce qu'en plus, il va falloir quand même pour cette Détroit s'armer. Il va falloir recruter, aller chercher des joueurs. Et je ne sais pas si quand même les partenaires, les sponsors vont suivre tout le temps, quoi. Et même pour Albi, je sais pas quand Bourgoin va venir, quand certains clubs de l'OM vont venir. Je ne sais pas si Albi va remplir le stadium. Voilà, je ne suis pas sûr, quoi. Je ne sais pas si ça va. Après, il est certain que c'est une meilleure préparation pour Albi à jouer en Pro D2, d'opérer donc dans cette Détroit, c'est mieux que de bien sûr de recevoir sur sa blouse un club moyen ou faible de la Fédérale 1, quoi. C'est sûr. Albi est gagnant. Albi, je crois que l'intérêt d'Albi, c'est qu'il y ait une Détroit. Mais est-ce que c'est l'intérêt de sur les 12 clubs qui vont se retrouver dans cette poule, est-ce que c'est les intérêts à l'intérêt de 6 ou 7 d'entre eux, quoi. Voilà.
Est-ce que vous n'avez pas peur que cette Pro D3, elle se ferme par le bas, qu'il n'y ait pas de candidat assez costaud pour arriver à accéder à cette Pro D3 via la Fédérale?
Écoutez, la Pro D3 finira par copier la D2, copier la D1, le top 14. Les dirigeants ont donné l'exemple, quoi. On ne veut pas des petits, on n'en veut plus. Je le regrette beaucoup, quoi, dans ce monde du rugby. Maintenant, je crois que les montées vont se faire sur la qualité du budget, sur le budget. Alors, bien entendu, c'est peut-être bien que, mais enfin, c'est sur l'argent, quoi, et peut-être moins sur le sport, quoi. C'est regrettable. Après, est-ce que c'est l'évolution, est-ce qu'on peut lutter contre ça? Voilà, c'est un petit peu la règle. Mais je ne sais pas, c'est pas trop dans l'air du temps quand même. Je pense que nous, on va retrouver le plaisir, vous savez, parce que moi, je me rappelle au début du confinement, à la petite épicerie du coin, il y a longtemps, je n'y étais pas allé, quoi. Elle était ouverte, et aller chercher mon pelle le journal, etc., quelques trucs. Toujours pareil, quoi. Est-ce que on va pas avoir quand même un retour vers un peu moins d'argent, un peu plus de qualité de vie, un peu plus d'amitié, se supporter un petit peu. Moi j'espère ça, quoi. Que ce sera les leçons de ce qui nous est arrivé depuis 2 mois, quoi. Un petit peu ça. Alors j'espère, je ne suis pas sûr du tout. Mais je suis déçu vraiment par l'attitude, je le répète, des dirigeants des clubs pro. En plus, j'en connais beaucoup. C'est des gens, ils ont oublié d'où ils viennent. Je ne citerai pas les clubs. Je ne citerai pas les clubs, mais je les ai tous quand même plus ou moins connus.
En Pro D2, il y a 11 clubs qui sont passés par la Fédérale 1 dans les 10 dernières années.
Exactement. Exactement, quoi. Et ils ont oublié. Et ça, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien quand on oublie son passé, quand on oublie tout simplement d'où on vient, quoi. Ça, c'est pas bien. Et puis, c'est pas une bonne image de rugby. Et ça me déçoit beaucoup, énormément de la part de ce sport, pas du sport, mais de certains, de beaucoup de dirigeants de ce sport. Voilà.
Quand vous une équipe comme Colomiers qui a fait une merveilleuse saison en Pro D2, ils étaient leaders. Sportivement, il y avait un groupe qui était au top. Mais donc, les dirigeants n'avaient peut-être pas anticipé cette nouvelle génération qui montait. On sait que Colomiers, c'est un secret polichinelle, n'avait pas la maille financière pour monter en top 14. Derrière, on voit que le premier, on va dire, porte-parole du statu quo des non-montées, des non-descentes, c'est Alain Carré, le président de l'UPCR, de l'Union des clubs professionnels. Il n'y aurait pas un peu abus de position dominante, là ?
Écoutez, Alain Carré, je le connais très très bien, je l'ai vraiment très bien. Je suis un ami d'Alain Carré, je pense. Lui a été touché d'ailleurs par le coronavirus directement. Dire que je suis un peu déçu par est-ce que lui aussi on peut pas monter en top 14, reste là, je peux pas monter moi, donc j'empêche derrière en bas de monter, ça m'étonne de lui, quoi. Voilà, je l'ai eu au début quand il était malade, depuis je l'ai pas rappelé. Je suis un peu surpris, quoi. Vous savez, il faudrait en parler. J'aimerais bien un jour en parler avec lui, avoir les tenants, les aboutissants. Je sais pas du tout, mais c'est vrai que à première vue, je suis déçu parce que c'est pas quelqu'un comme ça, quoi, Alain. Il a connu les difficultés avec Colomiers justement l'année précédente où il a failli descendre. C'est pas quelqu'un comme ça. Alors d'où c'est que ça vient? Est-ce que lui aussi il n'est pas tenu par des partenaires exigeants, ça peut arriver ça aussi, vous savez, des gens je pense que j'aurai l'occasion d'en parler franchement les yeux dans les yeux, parce que c'est comme ça, quoi, voilà. Mais c'est vrai, quoi, mais
on vous attend de loin,
vous parlez d'Alain, mais il y en a d'autres qui connaissent très très bien les décisions de
On vous entend de loin, Henri.
Oui, pardon. Il n'y a pas qu'Alain Carré, quoi. Ils étaient unanimes, parce que j'ai compris, quoi. Et il y en a d'autres. C'est lui que un petit peu le bouc émissaire dans cette histoire-là, mais. Il y en a d'autres, quoi, oui. Autour de lui, qui n'ont pas accepté donc les montées d'Albi et de Massip. C'était les deux clubs les mieux placés pour monter, quoi. Il n'est pas tout seul, quoi.
Bien entendu, il n'est pas tout seul, et il y a un président de la Ligue, Paul Gauze, il y a un comité directeur, mais on a l'impression qu'entre les personnes influentes, il en fait partie à la Ligue nationale de rugby, par sa position de président de l'UPCR, il y a un mur médiatique qui a été créé, il y a comme un esprit panurgien entre ces clubs professionnels. Dès qu'on a eu peur, on se regroupe et on ne cherche pas trop d'autres perspectives que se regrouper et rester serré.
Oui, c'est certainement. Mais je le répète, là, je suis pas assez compétent parce que je connais pas tout là-dedans. Je le répète, c'est quelque chose qui m'a déçu, le fait de montrer qu'on n'ouvre pas les portes, qu'on reste entre soi. Vous savez, c'est quand même décevant, quoi. Parce que bien sûr, il y a le fait qu'Albi et Massy ne montent pas, mais il y a le fait aussi que Colomiers et Perpignan ne monte pas non plus, c'est pareil, quoi, c'est dur, quoi, c'est très dur,
Perpignan,
c'est très dur à accepter, quoi.
C'est pas le rugby,
c'est quand même le terrain, c'est le terrain qui compte avant tout, c'est comme ça, quoi, voilà.
Surtout que Perpignan, derrière, il y avait tout un peuple catalan qui n'aurait vécu une chose, c'est de retourner en top 14, et un président qui avait beaucoup investi pour essayer d'arriver en top 14. On a eu l'impression que c'était un peu le seul à essayer de se battre au début pour essayer de monter en top 14. Puis bon, quand il a vu que derrière il avait affaire à un mur, il est rentré dans le rang.
Oui. Oui, tout le monde a l'air de rentrer dans le rang d'ailleurs. Après, je ne sais pas quelles sont les promesses qui sont faites au club pour se taire. Je ne sais pas. Je ne sais pas du. Je ne connais pas. C'est un monde qui est loin de l'entente Miranda Milan, si vous comprenez. Voilà, on est très loin de ça, quoi. On regarde ça de loin, mais ça décourage la vieille garde, quoi. Les gens de ma génération, pas découragés, parce que c'est pas ça qui va nous décourager. On va pas se décourager. On a perdu des matchs, on en a gagné, on a connu des montées, on a connu des descentes. C'est la première fois, quand même. C'est la première fois qu'on voit ça, quoi. Et on se dit, bah, vraiment, c'est coupé. Parce qu'on avait encore un petit peu l'espérance que le rugby s'attendait à la main aux petits, aux plus pauvres, etc. Qu'il était fait pour tout le monde, quoi. Et puis là, on s'aperçoit, c'est comme ça.
Pourtant, la finale du top 14 en est la quintessence, cette réunion du rugby, où la finale du top 14, c'est l'apogée du rugby professionnel. Mais quand on va au Stade de France voir une finale du top 14, ou même quand on va dans tous les villages de France qui le regardent derrière la télé, il y a tous les rugby de France, le côté polyforme du rugby de France qui se réunit sur un événement et à trop se couper de cette diversité du rugby, le monde professionnel pourrait peut-être perdre son âme.
Écoutez, dans les tribunes, quand même, on a toujours les fidèles, ceux qui aiment ce sport. Je parle dans les tribunes au top 14 des deux. On a toujours des amoureux de ce sport, ça c'est vrai. On les retrouve d'ailleurs le dimanche après-midi sur les terrains de Fédéral 1, 2 ou sur les terrains de série régionale. On les retrouve, ce sont les mêmes. Mais à côté de ça, on a quand même un nouveau public, c'est vrai, qui va là un spectacle, qui appréciera le feu d'artifice qui est avant le match, les pompongers sans doute, etc. On a ce nouveau public est arrivé, quoi, qui va au spectacle, comme on va voir un groupe musical, des choses comme ça, quoi. C'est très bien qu'on ait ce nouveau public, mais c'est lui qui change un petit peu quand même nos mentalités, qui est influent, qui est fort. On le voit chez les présidents, quoi. Le président du Stade français, on aimerait bien. Tant mieux, il donne de l'argent au rugby, il vaut mieux qu'il ne donne certainement au rugby qu'au football. Mais on voit arriver ces gens-là qui deviennent très très influents dans notre sport et qui viennent du milieu des affaires, quoi, et qui sont qui ne respectent pas l'essence de notre sport, quoi. Ça, enfin, qui ne la respectent pas, même s'ils donnent beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas encore compris quand même ce qu'est notre sport. Ça, je suis persuadé, quoi. Voilà. Pour le moment, ils sont très égoïstes, leur intérêt, voilà, c'est comme ça. Après, il ne faut pas pleurer, quoi. Il faut continuer à lutter, il faut continuer à s'accrocher, essayer de l'intérieur de faire modifier un petit peu ça, de faire reconnaître les valeurs, les qualités de notre sport. Ce n'est pas un sport, ce n'est pas possible que ce sport ne puisse vivre que sur l'argent, quoi. Que ce soit toujours le plus riche qui soit le champion. Voilà, il faut toujours qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des faux rebonds. Et ça se joue pas voilà.
Pour vous, quand on entend parler de fonds émiratis qui pourraient arriver à Béziers, ça, vous n'avez pas peur que Béziers devienne le, si ça se fait, parce que ça a l'air d'avoir du plomb dans l'aile cette histoire, mais que de Béziers devienne le PSG du rugby?
Là, j'ai vu ça, je sais pas si c'est sérieux, quoi. Là aussi, je suis un petit peu loin, mais on peut arriver vers des choses comme ça en rugby de plus en plus, quand même, hein. Ça c'est possible. Après, écoutez, ça prouve qu'on est vraiment qu'on est en train de passer dans un autre monde, quoi. Il faut continuer quand même à se battre pour que, je le répète, notre sport il garde ses valeurs, quoi. Il faut continuer contre contre vent et marée, il faut pas laisser faire, quoi. Mais après, vous savez, ces gens comme celui qui devait prendre, puis finalement, ça n'a pas l'air de se faire, le club de Béziers, vous savez, ces gens, ils vont venir 2-3 ans, etc., boum, ils vont dégager, ils vont repartir, voilà.
Ils sont un peu hors sol.
Ils vont venir un petit peu aider là, et puis le jour où le caprice sera fini, ça passera à autre chose. Et puis après, je sais pas, d'après les commentaires que je peux lire, je sais pas si c'est extrêmement sérieux quand même, je peux pas porter un jugement, je connais pas.
Totalement. Vous nous parlez de valeurs, on s'en souvient, il y avait quelque chose qu'ils avaient mis en colère l'avant-dernière fois qu'on vous avait eu, c'est les accusations qui avaient été portées contre Cédric Rouche, le talon du cercle amical, la même année. Il a été disculpé par la Fédération française de rugby. J'imagine que ça vous a fait grandement plaisir que ce petit du plateau de la Nemezan ait son honneur qui soit remis à juste niveau.
Oui, ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est en grande partie grâce à Radio Albigès. Parce que Radio Albigès a été, le premier défenseur de Cédric. Alors que tous les journaux, en particulier les journaux parisiens, puisque il est Bombec de Paris, les journaux parisiens l'avaient complètement condamné.
Ça lui demandait son avis.
Ils étaient très nombreux. Ils étaient très nombreux, les journaux parisiens. J'ai pas la liste tout à fait en tête, mais enfin, les plus grands journaux de Paris avaient condamné Cédric. Voilà. Alors moi, je suis très heureux de voir que Cédric est réhabilité. Après, c'est fini. Après, c'est pour moi, c'est vraiment dommage que cette histoire-là soit passée, soit été autant médiatisée, parce que je crois que un entretien positif entre les deux présidents de la Nemezan et de Tarbes aurait permis de faire moins de pataquès, moins d'histoire. Ils avaient déjà assez après leur match, qui avait été un match très violent. Ça fait quand même une très mauvaise publicité sur le rugby. Ça fait dans un premier temps une très mauvaise publicité pour Cédric, qui est un garçon
qui a été meurtri par ses accusations,
qui a vraiment été meurtri, qui a été dans son travail, etc., qui a été contesté. Et qui porte encore un petit peu, même s'il est réhabilité, vous savez, il y a toujours des gens en train de dire « Ouais, mais il devait y avoir quelque chose, etc. » Voilà. Et ça aurait pu être évité, tout simplement, je pense, entre un accord entre les présidents des deux clubs. Depuis, je m'aperçois que Woki a quitté Tarbes.
C'est pas le seul, il y a une exode à Tarbes.
Le Tarbes connaît quelques difficultés à l'heure actuelle. Et je suis surpris, d'ailleurs, de voir qu'ils veulent quand même postuler pour la Détroit, mais bon, je pense que sur Tarbes il y a les moyens de faire, je le crois tout le temps, une très grosse équipe. Bon, pour le moment c'est pas trop le cas, mais ça peut le devenir, parce que les Tarbais sont des grands amoureux de rugby, hein, vous savez, c'est un pays très très rugby, d'ailleurs toutes les Hautes-Pyrénées, c'est avec beaucoup de joueurs de très grande qualité qui se font prendre régulièrement d'ailleurs à l'heure actuelle. Par rapport à Cédric, je suis vraiment très heureux qu'il soit réhabilité, mais je le répète encore une fois, c'est une histoire qui a fait trop de bruit, parce que moi, qui a fait trop de bruit, et c'est un petit peu de la maladresse de la part de la part, je pense, des dirigeants, en particulier peut-être de mon ami Théré, que je connais très très bien, Lionel Théré, que j'ai vu évoluer, qui est un ami, quoi. Après, je crois qu'il a été un petit peu débordé par son joueur, quoi. Voilà.
Et puis
appuyé par l'intelligentsia de notre rugby, puisque son joueur portait un nom quand même. Voilà.
Oui, et puis il y a peut-être aussi un défaut de la part d'une partie de la presse, un défaut du métier, c'est-à-dire qu'on oublie des fois de faire du contradictoire, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, mais il faut déjà aussi aller voir la personne qui est accusée, voir ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle a à dire. Ça s'appelle, c'est la base même du journalisme, le contradictoire.
Mais exactement, vous savez, des jugements semblables, on les a eus au moment du coronavirus, là, etc. On a eu souvent des informations trop vite donné, et là c'est une information qui est trop vite sortie, quoi. Il fallait, comme vous le dites, il fallait donner la parole d'entrée à Cédric, alors qu'il ne l'a pas. Je le répète, Radio Albigès l'a beaucoup aidé, parce que jusque là on avait parlé d'ailleurs ensemble, parce que vous aviez fait une interview à ce moment-là, et j'avais défendu Cédric parce que je croyais, parce que Cédric, tout simplement, que j'aime beaucoup, m'avait, et que c'était quelqu'un de parole, m'avait dit, je t'assure, je n'ai jamais dit ça. Après, je lui ai dit, tu vas voir, quand tu vas revenir, je vais m'occuper de toi. Ça, c'est vrai, il lui a dit. Mais voilà, ça, c'est du Cédric.
Ça n'en doute pas.
Voilà, et ça, il s'en serait occupé, d'ailleurs, parce que même si l'autre mesurait 2 mètres, Cédric...
C'est un vaillantas, comme on dit.
Exactement. Il est d'aspect, il est de la montagne, un peu. Et voilà, c'est un combattant, quoi. Voilà. Et après, ouais, je suis heureux qu'il soit quand même réhabilité, quoi. Mais ça prouve que notre sport, c'est encore un sport très fragile, quoi. Là aussi, quand même. Hein. C'est des choses qui, à notre époque, se seraient réglées de façon tout à fait différente, quoi. Voilà. On aurait mangé ensemble, on aurait bu un verre, et puis c'était réglé, et puis c'est fini, quoi. Même si quelquefois le terme est dit, vous voyez, même si quelquefois ça peut arriver, je l'ai entendu sur les stades, des insultes dites sur le coup de la colère, après vous vous excusez, vous allez boire un coup, on perd ça, quoi, dans notre sport, quoi.
Le lien social.
Oui, tout à fait. Le rugby, c'était justement fait pour ça. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire les récits des anciens, ça se chamaillait, ça se tapait dessus, mais derrière, eh bien, on effaçait tout ça autour d'un verre, etc. Et tout allait bien, quoi. Maintenant, c'est une époque différente, mais il ne faut pas être nostalgique. Le rugby, quand même, je prends du temps pour voir des images du passé, quand même. On s'aperçoit que le rugby progresse, le jeu progresse, qu'on le veuille ou non. Que les anciens nostalgiques là-dessus fassent attention quand ils portent leur jugement, les joueurs de rugby, quand même, jouent bien de nos jours. Voilà.
La quintessence, ce rugby qui marche un peu sur la tête, c'est pas aussi ce qui arrive au Stade Nantais. On les entend il y a 2 semaines dire on veut l'impro des deux. Il y a 3 jours dire on veut aller, plutôt 4 jours, aller en fédéral 1 élite, en pro des 3. Et le vendredi, ils sont relégués en fédéral 3. C'est assez ubuesque, ce grand écart entre la réalité et les ambitions.
Vous savez, on a vu beaucoup de clubs quand même dans ces régions un petit peu du nord où le rugby mérite de s'implanter quand même. On a eu Lille, on a eu Strasbourg, là peut-être Nantes maintenant. On a beaucoup de clubs un petit peu, c'est pas, qui ont l'air de naviguer un petit peu à vue, qui sont dans des villes avec d'énormes potentiels, mais qui ont du mal un petit peu par rapport à leur budget, etc. Après, là non plus, je le répète, je ne suis pas compétent, je vois que Tchéto est dans le coup, c'est un des grands personnages de ce sport. Je sais que c'est quand même très difficile. Vous voyez, moi je vous parle par exemple de Lombès, je sais que Lombès va aller en Fédéral 1, peut-être s'y maintiendra, je leur souhaite, va se retrouver peut-être en Fédéral 2, mais Lombès n'ira pas en division d'honneur, parce que Lombès ne dépensera pas l'argent qu'il n'a pas. Lombès n'a jamais défendu dépenser l'argent qu'il n'avait pas. Et voilà, quoi. Et à côté de ça, vous avez des clubs qui sont des puissances, quoi, dans la ville, la conversion est puissante, et qui font un petit peu, font souvent n'importe quoi. Je le répète, Lille, ça a été terrible. Strasbourg aussi, ça a été terrible. On attendait dans ces villes-là des clubs pratiquement de top 14. On s'aperçoit que des dirigeants qui sont souvent d'ailleurs des chefs d'entreprise et qui sont très vigilants sur les moyens de leurs propres entreprises, eh bien, le sont beaucoup moins quand ils prennent une équipe de rugby en main, quoi.
C'est la passion qui prend le dessus.
Je sais pas, la passion, enfin l'ambition plutôt que la passion. Hein. L'ambition, c'est, je suis président de ce club, je l'ai fait monter en top 14. On a ce style-là. Vous savez, il y a des gens, si on avait s'ils n'avaient pas eu le rugby, est-ce qu'on les connaîtrait ? Je ne cite pas les noms, mais enfin, vous les voyez. S'ils n'avaient pas eu le rugby, même s'ils avaient très bien réussi dans leur projet professionnel, dans leurs entreprises, hein, qui avaient très bien réussi. Mais le rugby leur permet d'avoir, d'être connus, d'être reconnus. Leur permet d'être reconnu, alors que à la tête de leur entreprise, on ne sait pas qui est le patron des grosses entreprises françaises. Le nom, on en connaît quelques-uns, mais pas beaucoup. Tandis que là, le fait de devenir président d'un club de rugby, aussitôt, vous êtes projeté en première ligne, et ça, ça les grise, quoi. Et ça, ça leur fait plaisir, et ils sont bien, quoi. Là. Après, on ne va pas leur reprocher de mettre, je le répète, de l'argent quand même dans le rugby. Mais, bon, je prends le cas de Boutelal, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, et bah, c'est j'ai eu toujours des rapports courtois avec lui, mais bon, Boutelal, même si il avait fait, il s'était fait un petit nom dans les bandes dessinées, ça n'a pas eu l'impact, ça n'avait pas l'impact qu'il a obtenu quand il est passé dans le monde du rugby, quoi. Voilà. Et je peux en citer Lorenzetti Foncia, qui c'est le directeur de Foncia, n'aurait pas su. Par contre, maintenant, Lorenzetti, on sait qui c'est, c'est le rugby qui a fait quand même
une autorité.
Qui l'a fait, non. Et puis c'est quelqu'un de très très bien, Lorenzetti, il n'y a aucun problème. Je me rappelle très bien, juste une anecdote, on était monté avec Agen les rencontrer à Paris, le match avait été en définitive remis, mais on regardait sur le terrain, ça devait se jouer un dimanche après-midi à 3h. Alors on était sur le terrain, gelé, pas gelé, etc. Et puis il y a un type qui me passe à côté, qui me dit « Bonjour Monsieur Roncan, je vous assure que j'ai cru que c'était un stadier. » Que c'était un stadier qui me disait « Bonjour, quoi. » Et je continue, je marche, je vous parle ça quand même de 2008, voilà, quelque chose comme ça, 2007, 2008. Et je continue à marcher, je dis, mais qui c'est ce type-là? Mais c'est le président, hein, c'est Laurent. Ah bon, d'accord. Vous voyez, une apparence très, très saine, voilà.
Très humble.
Et il va être très humble, mais il l'est. J'ai eu l'occasion de manger l'été dernier avec lui. Ça a été un arabe à Saint-Bigorre, parce qu'il a un ami là-bas, nous avons un ami commun. C'était un peu formidable, quoi, à table, etc. Mais je le répète, c'est quelqu'un qui a été reconnu dans notre société grâce au rugby, même s'il avait très très bien réussi sur le plan professionnel, quoi. Voilà.
Alors, il en a un qui a été reconnu par le rugby, mais lui, c'est sur le terrain. C'est...
Allô. Allô.
Oui, allô, Henri.
Oui, voilà, on avait été coupé. Oui.
Il y en a un qui a été reconnu sur le terrain c'est via sa carrière, c'est Arnaud Mella. On sait que vous avez une grande affection pour lui, un côté un peu paternaliste, vous regardez très près sa carrière. On a l'impression que son aventure avec Albi, il bosse beaucoup, Arnaud, il y met beaucoup du sien, mais il y a un côté un peu club maudit qu'on a pu être Clermont à une époque, qu'on a pu être des grands bastions de l'Ovalie. Alors certes, ça donne du charme et de l'âme à ce club d'Albi à qui il arrive toujours des péripéties, mais à un moment donné, il faut que ça paye, parce que le boulot, normalement, ça paye.
Après, Clermont, vous savez, a mis beaucoup de temps à devenir champion de France, et il l'est devenu. Et je pense que Albi, avec justement un entraîneur et des dirigeants obstinés, oui, avec un entraîneur vraiment de grande valeur, de grande qualité, vous avez de la chance à lui de pouvoir le conserver, hein, parce que je pense que les sollicitations ne vont pas manquer. Je pense qu'il va y arriver, quoi, parce que c'est pas possible, quoi. L'année avant, l'histoire de Rouen, tout le monde la connaît. Mm-hmm. Cette année, alors que ça caracole en tête du championnat au-dessus de toutes les équipes, il y avait tout pour réussir. Moi, ce que je ressens quand même chez lui, je le vois faire, puisque j'ai souvent des nouvelles d'Albi, la façon dont il resserre son groupe dans les difficultés que ce groupe connaît, c'est quand même fantastique de la part de ce type, quoi. Vraiment, il réussit à regrouper, il réussit à resserrer.
C'est le côté Berger Bigourdan, ça.
Bien sûr, il a du plateau. Non, mais tout à fait. Mais vous savez, ils ne sont pas loin du Gers, hein, le plateau de la Neuvesan. Au pied du plateau, vous êtes dans le Gers, quoi. Voilà.
Et puis, il faut le rappeler, quand il est arrivé, il était dans un club où c'était assez exsangue. Le président Castanet venait de partir, le club était descendu en Pro D2. Il y avait des tensions un peu partout dans le club. Et puis, petit à petit, Arnaud Mella, avec son aura, avec son travail sportif, a réussi, via le levier sportif, à refédérer tout le club autour d'un projet.
Oui. Après, vous savez, le président Castanet, vous savez, moi, je suis arrivé, j'ai connu le président Archila et le président Castanet. Hein. C'était pas facile à l'époque d'être président du Sporting Club Albigeois, vous savez. Financièrement, économiquement, le club était en difficulté. Vous savez, moi, je vous montrerai des exemples où avec le président Castanet, il faut voir les salaires que l'on versait à nos joueurs, quoi, y compris des joueurs comme Sofiane Guitoun ou comme Gabriel Lacroix, hein, qui avait le niveau international et qui était payé au SMIC, hein, ça je vous garantis, quoi. Gabriel Lacroix, quand il est arrivé, il devait être, je sais pas, 700 euros, c'était le salaire minimum d'un joueur espoir, quoi, vous me comprenez, quoi. Le président Castanet, quand même, il a beaucoup donné pour ce club. Voilà. Après, il a failli. C'est lui qui a quand même fait venir Hugo Moula. Il fallait le faire venir Hugo Moula. Derrière ça, il y a eu une année malheureuse, hein, je pense, voilà, et alors qu'il y avait pourtant de la qualité sur le terrain, il y avait de la qualité sur le banc. Bon, mais ça n'a pas bien pris, ça n'a pas marché, parce que le rugby, c'est toujours pas évident. Derrière, Arnaud est arrivé, et certains voilà, Arnaud, c'est quelqu'un qui pèse.
C'est là où je veux venir, c'est que sur un pointé, c'est-à-dire sa descente en Pro D2 et qui reste un carrefour du club, Arnaud derrière a su refédérer le club, parce que le club était morcelé. Moi, je me souviens, c'était les premières années où j'étais journaliste, je suivais le Sporting Club Albigeois. Plus personne ne se parlait dans ce club. Les supporters ne supportaient plus la direction, la direction ne supportait plus les supporters. Les joueurs étaient en fronde contre les entraîneurs. Les entraîneurs contre la direction. C'était une usine à gaz quand même. Hein.
Oui, je pense que Albi a connu à ce moment-là une période. Moi, j'en étais loin. Donc vous savez, quand vous n'êtes pas dans le club, c'est très difficile de pouvoir juger ce qui s'est passé, etc. Il est certain que, avec Hugo Moula, le club avait joué les demi-finales, c'est ça. L'année suivante que le club descend. Hein.
Deux ans après.
Quoi.
Oui, parce qu'il y a eu l'année
avec quand même sur le banc des noms. Il y avait des noms, des entraîneurs qui avaient fait leur preuve, dans leur club, quoi. Mais après, peut-être qu'il y avait trop de noms, qu'ils n'ont pas pu s'accorder ensemble. Vous savez, c'est très compliqué en club. Et moi, je me garderais vraiment de juger parce que moi, j'en étais très loin. Très loin, j'ai jamais été très loin d'Albi, j'ai toujours été au courant un petit peu de ce qui se passait. Mais quand vous n'êtes pas quand même sur place, quand vous ne voyez pas les entraînements, quand vous ne voyez pas les réunions de joueurs-entraîneurs, etc., bon, c'est impossible de juger, quoi. Voilà.
Ah, mais moi je ne vous demandais pas un jugement ni sur la présidence Barré, ni sur la présidence Archila, ni sur la présidence Castanet, mais plutôt un jugement sur le fait que Arnaud Mella a réussi à renclencher une dynamique sportive qui a permis d'être un prisme positif pour tout le club et de se refaire.
J'ai toujours dit que le Sporting avait eu la chance de récupérer Arnaud Mella comme entraîneur parce que ce gars-là qui avait la réputation quand même d'être très rude sur le terrain, d'être plutôt con. Hein, c'est la réputation qu'il avait de faire mal, de jouer pour faire mal. Mais il s'est avéré comme quelqu'un qui est très humain, très proche des joueurs, très proche des hommes, très proche de ses dirigeants, très proche de son public, quoi. On le voit, quoi. Alors que le jugement qu'on peut avoir sans connaître Arnaud Mella, c'était la brute qui tombait les talonneurs et les joueurs qui venaient traîner dans le camp de son équipe, quoi. C'était ça, on le voyait claudiquant là, on se disait pourquoi il joue, mais c'est pour foutre des pètes. Et on s'aperçoit que on s'est aperçu, mais moi je le savais, parce que quand même.
C'est un ours au cœur tendre, comme on dit.
Oui, bien entendu, mais oui, tout à fait, et je pense qu'il est. Il est vraiment très humain, quoi. Il a ce côté-là et il est pour beaucoup dans la réussite de l'Albi, parce que c'est pas un échec, quand même. On peut pas dire que contre Rouen, ce soit un échec, c'est un vol.
Caractérisé.
Ça vous arrive. Bon, là-dedans, au lieu de se disperser, etc., il réussit à regrouper son équipe, il resserre tout ça, ça file, ça avance, ça domine tout le monde. bam, arrive le Covid-19. Bon, voilà. Et je crois, tout ça, c'est un peu comme Clermont qui s'est jamais découragé sur ce qui est son titre. Bon, je crois que l'année prochaine, ce sera bon, quoi. Voilà.
Vous pensez qu'Arnaud Mella un jour pourra accéder à un niveau supérieur avec tout un club au top 14 vous pensez qu'il il en a venir à dedans
mais s'il avait voulu il serait déjà parti voilà pour le moment c'est quand même quelqu'un qui tient son rôle voilà qui est dans une mission c'est un missionnaire Arnaud quoi c'est un missionnaire il a cet esprit là quoi et sa mission c'est de faire monter Albi et après bon quand il aura fait monter Albi peut-être qu'il partira mais il aura fait son travail quoi et il veut le faire hein. Et je pense qu'il veut le faire jusqu'au bout quoi. Et il faut que les Albigeois l'aident à le faire jusqu'au bout mais ça ils le font parce que je m'aperçois quand même, j'entends parler de la mairie, j'entends les élections, j'ai des échos. Quand même, je crois quand même que personne ne conteste les aides qui sont apportées de la part de la ville à la mairie, quand même. À part, bon, bien sûr, personne ne fait l'unanimité, mais on sent quand même que chez les candidats, le sporting est quand même quelque chose d'important. Voilà.
Ah ben c'est le poumon sportif de la cité épiscopale. Hein. Cette cité respire en journée noire.
Oui, oui, c'est une ville magnifique, bien sûr. Elle n'a pas besoin peut-être du rugby, mais le rugby lui donne incontestablement un plus. Quoi. Voilà. Et puis les malheurs d'Albi quand même engendrent quand même un courant de sympathie vis-à-vis de ce club, quoi, parce que. Personne n'est dupe de l'histoire de Rouen, personne n'est dupe de ce qui s'est passé cette année avec le coronavirus. Tout le monde sait quand même que Albi, c'est le club qui, depuis deux ans, est vraiment très, très, très mal chanceux. Voilà. Et je pense que l'année prochaine, quand même, ça va mouiller, quoi. Voilà.
Bon. Eh bien, on va terminer sur ces notes positives. Henri, on espère l'année prochaine que vous avez passé une très belle saison avec votre club de Miélan. Miélan, la fédérale maintenant nouvelle version où il y a tous les pros qui risquent de s'en aller en Pro D3. Ça peut intéresser à Miélan, cette fédérale qui est devenue quasi exclusivement amateur.
Et vous savez, la fédérale 1, on ne peut pas. Ce que l'on regrette, bien entendu, on est très content que l'on baisse Rochemont. Après, on regrette qu'il soit plus avec nous, parce que nous, on a fait le plein l'année dernière, plein de recettes en les accueillant, quoi. C'est comme si Mazamé ou Grouillet reçoivent Albi, quoi. Et là, vous faites le plein, quoi. Voilà. Et nous, on faisait le plein en recevant Roche et Lombès. Bon, mais on est très heureux. Que Roche et Lombès, moi, il y a un club, j'ai passé 27 ans et l'autre, j'ai passé 9 ans. Alors, je suis très heureux que ces deux clubs montent, bien entendu. Je suis très, très heureux pour le rugby gersois, etc. Parce qu'il y aura du monde, les stades seront pleins. Et ça nous tarde de voir des stades pleins parce que pour le moment, on ne se régale pas trop quand même. On s'ennuie un peu quoi, dans nos campagnes. Voilà.
Ok. Eh bien, on va espérer que le rugby reprenne vite, aussi pour les écoles de rugby, pour que tous ces minots puissent vivre la passion, que la nouvelle génération monte, puisqu'il y a une Coupe du Monde 2023 en France, et puis il y aura d'autres aventures dans les décennies à venir, parce que le rugby, quoi qu'il arrive, perdurera. Et avec des gens comme vous qui l'aiment, c'est toujours un plaisir d'en parler.
Et merci surtout à Radio Albigeat parce que je sais que vous faites, je lis, hein, je vois, ou j'écoute, je vois tous les efforts que vous faites vraiment pour promouvoir ce sport, pour l'aider à fond, et ça fait plaisir, vous savez, d'avoir. J'aurais aimé vous connaître quand j'étais entraîneur d'Albi, voilà.
Ouais, moi c'est réciproque, je me serais régalé à suivre les aventures d'Albi à votre époque, surtout que il y a eu des époques où vous n'avez pas grand chose, vous avez fait beaucoup, je pense surtout une année dont nous parlait Julien Reynaud. Où tout le monde avait prévu la mort, comme on dit à Albi, et vous êtes arrivé à vous sauver avec de l'huile de coude, de l'énergie et une bande de jeunes qui en voulaient.
Voilà, exactement. Ça a été une très belle époque pour moi. Voilà.
Merci Henri et à très bientôt sur nos ondes.
Allez, au revoir, merci.
Au revoir. Salut les amis sportifs, vous êtes bien sur Radio Albigès,
la radio du rugby dans le Tarn,
95.4, 104.2,
et retrouvez-nous également sur radioalbigès.com.
comme vous avez pu l'entendre, Henri Boncan a parlé sans ambages de son sport, a parlé comme à son habitude aussi avec la passion qui le caractérise. Et puis il nous a fait une très belle transition puisque là, on va écouter maintenant un autre personnage qui a le rugby au cœur, qui a le rugby au corps, c'est Jean-Christophe Bacca, le manager du Sporting Club Grouilletois, un de ces clubs qu'on aime appeler à Radio Albigès, qu'on aime mettre en valeur, un de ces clubs qui a un charme fou.
Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou.
On est avec Jean-Christophe Bacca, le manager des Mégissiers de Grouillet. Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Christophe, on ne t'avait pas eu depuis le début cette crise sanitaire du coronavirus et du Covid-19. Déjà, on va te demander quelques nouvelles. Comment tu vas? Tu as bien passé ce moment compliqué pour tout le monde? Le confinement n'a pas été trop dur pour toi?
Le confinement, on a continué à œuvrer de chacun de son domicile pour essayer de faire avancer la cause du Sporting Club Grouilletois. Ça a été un peu plus compliqué, bien sûr, parce que le recrutement par téléphone, c'est toujours plus compliqué sans voir les hommes de visu, c'est toujours un peu plus difficile. Mais bon, on a quand même bien avancé là-dessus. Et bon, on est assez satisfait de ce qu'on a mis en place, même si c'est pas terminé. Que là, bien sûr, le déconfinement nous aide quand même pas mal à rencontrer les joueurs et à pouvoir défendre le projet de Grouillet vis-à-vis du recrutement. Après, oui, c'est une période qui a été un peu difficile pour tout le monde, hein, bien sûr. Hein, mais bon, on espère que le rugby va pouvoir repartir et qu'on pourra refaire une belle saison pour à l'avenir, quoi. C'est toujours la difficulté aujourd'hui d'avancer dans ce futur championnat, voilà, sans savoir un peu trop où on va. Et donc c'est un peu la difficulté aujourd'hui dans ce futur rugby, en tout cas.
Alors, pour rester temporairement là sur le Covid-19 et le coronavirus, on sait qu'à Grouillet, vous avez une particularité, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont issus du milieu médical. Je pense à Jérôme Montbroussou, qui est pharmacien, qui était en première ligne. Toi aussi, t'es issu du milieu médical. Ça t'a donné un autre prisme pour appréhender cette maladie, cette cochonnerie qu'est le Covid-19?
Ah oui, on relativise beaucoup la vie en général, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en étant confronté à la maladie et aux personnes qui se retrouvent dans des situations très très compliquées, on se dit que voilà, le sport doit rester un plaisir, une belle chose, et qu'il y a des choses beaucoup plus importantes aujourd'hui, la santé publique en étant une, et toute la difficulté est à ce niveau, et on espère que bien sûr on pourra reprendre une vie où le sport et tout ce qu'il y a autour vont revenir. Mais c'est sûr que ce type de pandémie, quand on est confronté à ça de très près, c'est beaucoup de on relativise beaucoup parce qu'il y a des gens qui meurent, hein, tout simplement, hein, même si c'est une pandémie qui tue pas quand même comme a pu tuer la peste noire au Moyen-Âge, hein, mais c'est quand même quelque chose qui a été compliqué et qui l'est toujours, hein, donc il faut faire attention. Et c'est sûr que tous les pans de la société en pâtissent, et notamment le sport, et notamment les sports de contact, qui restent les sports les plus exposés par rapport à ce cochonnerie, quoi.
Alors, ça c'est venu tout bouleverser, comme tu le dis, même le sport. On va dire que Grouillet a pu en tirer quelques petits marrons du feu, si on peut dire ça, en se sauvant grâce au coronavirus. J'imagine que tu aurais grandement préféré aller te la chercher sur le terrain, ce maintien.
Oui, bien sûr. Moi, ce que Grouillet, grâce à sa gestion depuis des années, qui est une gestion saine, a réussi à se sortir administrativement de situations déjà compliquées. Souvent, voilà, il faut pas mésestimer cet aspect-là parce qu'il y a des clubs qui ont joué avec des budgets qu'ils n'avaient pas. Et bien sûr, ça se paye à un moment donné. Mais Grouillard a réussi à garder c'est une des valeurs du Sporting Le Grouillard qui dépasse pas un euro de plus que ce qu'il a. Ça, c'est tout à leur honneur. Après, c'est vrai que, bon, voilà, ça laisse un goût d'inachevé quand ça se passe comme ça. Et moi, ce que je souhaite en priorité avec ce club-là, c'est se sauver, se maintenir et pérenniser ce club en fédéral 1 sportivement, quoi.
Alors, là, pareil, le format des poules, du fait qu'il n'y ait eu aucune descente et même pour l'instant pas de montée, on va y revenir après, fait que les formules de championnat ont évolué. On a été d'abord sur 5 poules de 12, puis maintenant 4 poules de 12 et une poule élite. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Je pense que la poule élite, dans ce qu'elle représentait, n'était pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que il y a une disparité entre certains clubs. Si on prend au niveau du temps la différence entre Albi et Grouillet et Criarde, c'est-à-dire avec un budget qui est 6 fois ou 7 fois plus important à Albi qu'à Grouillet, la dimension sportive et infrastructurelle est compliquée à mettre en place entre ces deux clubs, par exemple. Donc, voilà, je pense que si on joue 15 fois à Albi, on perdra 17 fois parce que c'est pas possible de pouvoir contrer une belle machine comme l'a été cette année, par exemple, le Sporting Club albigeois. Maintenant, la solution pour moi, et je pense que là-dessus, la fédération avait déjà a fait ce championnat il y a quelques années, c'est cette poule élite qui préparerait les meilleurs clubs, les plus structurés, avec les meilleurs budgets de Fédéral 1 à la Pro D2. Le problème, je crois qu'aujourd'hui en France, je ne sais pas si on peut trouver 12 clubs qui ont la capacité de passer ce biais-là, quoi. Donc voilà, toute la difficulté, elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire, je pense que la solution est bonne. Encore faut-il que peut-être que le championnat français de Fédéral 1 ne permet pas de voir émerger 12 clubs qui sont capables de rivaliser pour une montée en Pro D2. C'est ce qui avait posé problème la dernière fois que cette poule élite avait été mise en place, où Albi avait participé, où il y avait, je crois, à l'arrivée, 4 ou 5 équipes qui étaient éligibles à la Pro D2. Toute la difficulté, elle est à ce niveau. Après, dans son organisation, je pense que créer une poule élite pour préparer ces clubs-là du mieux possible à leur montée en Pro D2, c'est le plus important.
Alors, on entend beaucoup de clubs qui parlent du contexte actuel et de l'économie chancelante actuelle, et que peut-être une poule élite pour les petits clubs comme Grouillet, maintenant, ça vous enlève des belles billetteries, ça vous enlève des beaux matchs face aux gros cadors qui faisaient rêver les joueurs et les supporters. On a entendu plusieurs présidents dire on aurait préféré qu'elle soit pas cette année mais l'année d'après. C'est quoi ton point de vue, toi, contextuellement? Tu penses que c'est le bon début de la faire cette année, ou ça aurait été mieux d'attendre peut-être, hein?
Alors, je pense que la première chose qui est importante, tu en as parlé, tu as fait une parenthèse tout à l'heure sur le Covid. Je pense que on est obligé de s'adapter, c'est-à-dire que ni les instances du sport en général, que ce soit le rugby ou autre, ne pensaient être confrontés à quelque chose comme ça. Donc c'est dans l'urgence qu'on est obligé de prendre une décision qui n'est peut-être pas l'idéal. Quand on prend des décisions dans l'urgence, et des fois on peut se tromper et ça peut s'entendre. Mais voilà, il faut toujours avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire que cette pandémie, je l'espère, elle sera unique et qu'elle ne continuera pas dans le temps, je l'espère aussi, mais ça on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, voilà, ça entraîne des adaptations qui sont peut-être pas toujours les bonnes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, si tu parles du cas personnel du Sporting Club Grouillet-Thouars, bien sûr qu'on regrette énormément le fait qu'on puisse plus avoir un Albi Grouillet, parce que pour nous, et financièrement et sportivement, tous les joueurs avaient envie de jouer, c'est la fête, quoi. Pour nous, jouer ce derby à Grouillet ou même à Albi, c'est même si on a très peu de chances de l'emporter vu la qualité de l'effectif albigeois cette année, c'est une fête. Et bien sûr, on le regrette, mais maintenant il faut
Pélissou dans sa tenue d'apparat quand des clubs comme Albi ou même Bourgouin débarquent.
Voilà, on met les petits plats dans les grands. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut savoir aussi être objectif et évaluer le contexte sportif. Aujourd'hui, une équipe comme Albi était un ton au-dessus de toute la Fédérale 1, quasiment, peut-être avec des équipes comme Massy ou Bourg-en-Bresse qui auraient pu l'accrocher. Je sais pas. Hein, voilà, il aurait fallu qu'il y ait des confrontations. Mais voilà, il y a très peu d'équipes aujourd'hui qui étaient en mesure d'accrocher les Albigeois quand ils avaient décidé de mettre la sur multiplier. Donc voilà, donc après je regrette, oui, parce que d'abord c'est un club pour lequel j'ai une affection particulière, hein, et puis parce que j'ai passé quand même un peu de temps et oui. Puis après il faut rester logique. Je pense que Albi doit évoluer et peut-être que bon, la Pro D2 lui tendait les mains, je pense, s'il n'y avait pas eu ce Covid. Maintenant, voilà, il y a un an de plus à patienter, mais vu l'effectif albigeois, voilà, je pense que voilà, ils auront encore de gros arguments à faire valoir. Et c'est sûr que voilà, donc pour nous, c'est une tristesse de pas refaire un Albi Groyer parce que c'est, je te dis encore une fois, c'est la fête du rugby pour le rugby grouilletois. Pour Albi, je pense que voilà, il faut aller vers d'autres objectifs et si c'est pas possible d'aller en Pro D2 cette année, ben il faut s'y préparer pour l'année prochaine, quoi.
T'en pensais quoi de ce débat avec une ligue très fermée qui cassait la passerelle entre l'élite amateur et l'antichambre de l'élite professionnelle? Qu'est-ce que ça t'a amené comme élément de réflexion ce positionnement?
Ben, tu sais, voilà, je pense que ça c'est en cascade à partir du moment où le top 14 a voulu rester à 14 parce que il y a des enjeux financiers qu'on ne connaît pas, hein, qu'on n'a pas tous en tête, et puis derrière donc la Pro D2 a suivi le mouvement. Voilà, ça devenait compliqué pour la Fédérale 1. Je sais pas où ça en finira, mais voilà, ça devenait compliqué de la Fédérale 1 pour monter pour se retrouver à l'étage supérieur. Après, je te dis encore une fois, je crois que c'est un coup du sort, quoi. C'est le destin qui a fait que ces deux équipes que sont Massy et Albi, qui ont dominé la Fédérale 1 cette année, n'ont pas pu monter face à ce Covid. Alors après, que la Ligue défende ses intérêts, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la société humaine qui est comme ça, mais c'est pas que dans le rugby. Voilà, on voit que c'est partout pareil. Donc, ça aurait été peut-être intéressant de voir peut-être une alternative à tout ça, sachant que on est bien d'accord, Loïc et toi et moi, que si on avait fait monter Massy et Albi, t'aurais eu quelques clubs de fédéral qui auraient dit mais pourquoi eux et pas nous, quoi.
Ah oui, c'est sûr que du côté de Bourg-en-Bresse ou de Narbonne, on serait klaxonné très fort.
Alors je sais pas si de ce côté-là les propos ne te sont réservés, mais ce qui est sûr, c'est que par contre voilà, je crois que la solution était de toute façon très compliquée parce que il y avait des enjeux financiers au niveau de la ligue, et effectivement elle a tendance à protéger les siens avant de protéger les autres. Les clubs amateurs, c'est peut-être pas la priorité de la ligue, et c'est pour ça qu'elle a été créée, hein. C'est-à-dire en gros, priorité aux clubs professionnels, et puis les autres, on les accepte quand ça peut intégrer notre
giron. Mais puissant ou misérable.
Exactement, mais bon, ça c'est, je crois, le rugby actuel qui est en train de devenir un peu comme ça, hein. C'est-à-dire que voilà, on écoute plus les puissants que les misérables, hein, les misérables ou les pauvres en tout cas. Donc voilà, c'était toute une complexité. Mais bon, si tu veux, je reconnais le travail qu'a mis en place la fédération en essayant d'essayer de trouver une solution la plus intéressante possible pour tout le monde. Après, on peut pas non plus je sais même que ça t'ennuie un peu, mais on peut pas non plus jeter l'opprobre sur la ligue qui n'a fait en gros que son travail en défendant les clubs professionnels. Alors après, bien sûr, quand on n'est pas dans les clubs professionnels et qu'on se retrouve aux portes, c'est injuste, hein, on est bien d'accord. Hein,
Albi a été pendant un mois entre le marteau et l'enclume, entre la Fédé et,
voilà,
et la Ligue.
Exactement. Donc voilà, toute la difficulté vient de là. Mais voilà, c'est, euh, c'est quelque chose à prendre un peu avec de recul. Et je crois que si on doit prendre un peu de recul là-dessus, des clubs comme Albi, qui sont voués de façon à être à un niveau pro des deux parce que la ville, le club et les structures le permettent, pourront sortir grandi de cette aventure, quoi. Si tu veux, moi j'ai le souvenir d'avoir joué 3 finales avec Éric Béchu, et cette situation-là, on l'a connue chaque année, c'est-à-dire qu'on était finaliste chaque année, et chaque année on ne montait pas. C'était quand même quelque chose qui était qui était une aberration en termes de sport, puisque
et de méritocratie
De méritocratie en termes de, on était sans doute, en tout cas sur la longueur, la meilleure équipe de Fédéral 1 à ce moment-là, et de loin, puisque pendant 3 ans on a fait 3 finales, quoi. Et qu'on a perdu les 3 bien sûr, mais on est arrivé 3 fois en finale, et il a fallu qu'à la 3e on puisse monter. Et si on fait un recul sur les choses, je crois que ce groupe-là, qui est monté en Pro D2 et qui a amené, avec quelques appuis derrière, ce club vers le top 14, puisqu'au bout de 4 ans derrière, on est monté en top 14. Ce groupe-là, avec une forte ossature, c'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr des joueurs qui se sont greffés, les Philippe Guichère, les Arnaud Mella, dont on parle là, mais le noyau dur de ce groupe-là avait grandi.
Les Jamie Mal et compagnie.
Voilà, exactement. Et ces hommes-là qui ont amené ce club-là, dont j'ai eu la chance de faire partie, vers le top 14, je crois qu'on le doit aussi à cette abnégation qu'on a eue de se faire. On le voyait que c'était injuste chaque année. On montait pas parce qu'une année, ils nous ont créé la promotion nationale. Une année, la première année, ils avaient décidé de faire monter que le champion de France, ce qui s'était jamais vu. La deuxième année, c'était comment créer une promotion nationale. La troisième année, c'était les deux finalistes, on était montés. Mais les deux premières fois, on méritait autant que de monter que la troisième fois. Mais ça nous a endurcis. Et derrière, la Pro D2, on s'est maintenu, on s'est dans la première année, puis on a monté les échelons chaque année pour arriver jusqu'à la qualification et ce fameux match à Dax, à Toulouse contre Dax, où on a pu rejoindre le top 14. Donc je pense que Albi était peut-être en train de vivre une deuxième phase comme ça et qu'il peut en sortir grandi.
Il y a quand même un côté
plus fort.
Un peu club maudit, comme à une certaine époque Montferrand ou Bagnères. Il y a un côté un peu club maudit. Déjà, cette descente de Pro D2 à Fédéral 1, tout le monde se repose la question comment on est arrivé à descendre avec la qualité qu'il y avait dans ce groupe. Bon, c'est qu'il y a eu quelques soucis, mais logiquement, en Pro D2, l'année 2016-2017, il y avait largement la maille pour se maintenir. Et puis, il y a eu l'année dernière l'affaire Cardona, cette année le Corona. On a l'impression que Albi a, comme je le disais à certains joueurs, un chat noir dans le stadium.
Ah, ben écoute, il y a des moments difficiles dans chaque club, je crois. Et je te dis, Albi en a connu quand même quelques-uns, hein, parce qu'il y a eu avant nous, après nous, chaque génération, en gros, a connu sa désillusion. Hein, et c'est sûr que, bon, mais au bout d'un moment, la roue tourne. Hein, moi, je pense que si Albi continue à travailler dans ce sens-là, bon, à terme, ça devrait payer, même si ça devient de plus en plus dur, hein. L'accession Pro D2 est compliquée, mais je crois que ça devrait payer parce que voilà, c'est un club qui est quand même commence à avoir une certaine expérience du niveau professionnel, hein, voilà, et qu'à un moment donné, bon, ils vont avoir la chance va tourner. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, on a quand même vu quand même pas mal de chats noirs depuis quelques années déjà.
Ok. Allez, on va repasser sur Groyer, puisque, on le rappelle, tu es le manager du Sporting Club Groyer-Tois pour la troisième saison. Tu as lancé une troisième saison. On va dire que pour Groyer, c'est un championnat plus ouvert qui s'annonce. Il y a eu beaucoup de montées de Fédéral 2. Il y a les gros calibres qui vont sûrement aller en Pro D3. Maintenant, c'est sûr quasiment 90% qu'elle se fera cette Pro D3. Ça laisse un petit espace. Ça va donner peut-être quelque chose de intéressant pour
le sportif. Je le crois. Je crois que Groyer, cette année, a la chance de pouvoir, d'abord, en maintenant son noyau dur avec des hommes qui ont quand même depuis 5-6 ans était habitué à travailler dans l'abnégation et dans le dur. C'est pas évident toujours de batailler pour le maintien chaque année avec des joueurs qui restent au club et ça c'est important là aussi. C'est comme sur ce dont on vient de parler pour Albi, je pense que ces hommes là sont très importants dans le dispositif Brouilletois. Je pense à Olivier Régnier, je pense à des Ben Dumont, à des Jules Montels, à des Jérôme Montbrossou ou son frère Alex. Mm-hmm. Voilà, qui sont des garçons qui ont bataillé depuis des années au sein de ce club Brouilletois, donc ils sont profondément attachés. Et ces garçons-là, ben ils ont l'expérience de la difficulté. Et ça, c'est important. Parce qu'ils apportent cette expérience aux jeunes qu'on est en train de recruter. Ce que j'espère cette année, c'est que le recrutement, qui me semble pour l'instant très homogène, puisqu'on a recruté beaucoup de jeunes, on va peut-être en parler, oui. et encadré par ces anciens, va nous permettre, je pense, de passer un cap. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose dont je viens de signaler, oui, effectivement, la montée de clubs de Fédéral 2 et le fait que les meilleures écuries de Fédéral 1 se retrouveraient dans ce Pro D3, entre guillemets, fait que voilà, ça nous laisse peut-être un peu plus de capacité de fonctionnement que qu'on a eu ces dernières années. Encore que, quand on voit là aussi comment s'outillent certains clubs de Fédéral 2 qui montent, je pense à Valence d'Agen, Castel, Ouaber, voilà, exactement, qui sont en train de monter des gros projets, ça risque d'être compliqué aussi. Mais c'est vrai qu'on a un peu plus d'expérience, on aura un peu plus de l'habitude du niveau qui fera que, ben, je pense qu'on a une chance de plus de se maintenir d'abord. Et puis peut-être après, voir comment, si la mayonnaise prend bien, voir jusqu'où ça peut nous amener.
Oui, parce que souvent, on sait que quand il y a des groupes comme ça, comme le tien, qui pendant quelques années ont été dans l'adversité, souvent dans la défaite, il suffit qu'il commence à y avoir une petite série de victoires, et puis ce goût de la victoire qui revient, il devient tellement bon qu'on n'a plus envie de le lâcher.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que ces garçons qui depuis des années, sont dans le dur, le jour où ça va leur sourire, ils sont, je pense, mentalement plus forts que certains autres joueurs qui auront été dans la facilité, depuis quelques années. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui, psychologiquement, pour eux, pour en avoir discuté avec certains, est dur, quoi. Quand ça fait 5, 6, 7 ans, qu'on joue le maintien, pour certains joueurs, ça pèse, quoi. Et si ces garçons sont encore là, c'est qu'ils ont quand même des vertus morales qui sont peut-être hors du commun. Et c'est là-dessus que moi je compte m'appuyer. C'est-à-dire la symbiose entre ces garçons-là et leurs vertus et les petits jeunes qui arrivent avec leurs talents et qui vont permettre de mettre un peu de vitesse, un peu plus de vitesse dans notre jeu, un peu plus de capacité d'accélération. Mais qui auront besoin aussi que ces hommes-là les encadrent et les amène dans les moments, parce qu'il y en aura, des moments difficiles et les temps faibles de match de rugby.
Allez, on va parler aussi du recrutement et du mercato, comme on dirait dans le foot. On a déjà un petit nom qui nous est remonté, c'est Guillaume Caz, comme d'habitude, il est venu faire un petit tour au stadium, voir s'il n'y avait pas quelques pépites qui traînaient. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que Guillaume Caz, l'arrière du Sporting Club albigeois, qui vient grouiller. Tu as quelques noms à nous donner?
Mais des noms, il y a rien de définitif. Tu sais comment fonctionne la Fédéral 1. Donc oui, ce que je peux te dire, c'est qu'on a beaucoup œuvré dans le contexte régional. C'est-à-dire, bon, bien sûr, moi je me suis appuyé sur ce que je connaissais, c'est-à-dire le Sporting Club albigeois, mais aussi le Castres Olympique avec des hommes avec qui j'ai des affinités particulières à Albi, c'est Kevin Boulogne, Fofourcade, Arnaud Mella et des hommes comme Jean-Luc Hermine, voilà, qui m'ont apporté leur expertise. Je précise que les joueurs que j'ai contactés sont toujours des joueurs que le Sporting Club albigeois ne souhaitait pas conserver, par exemple. Voilà, parce qu'ils ne pouvaient pas, ou pour d'autres raisons, hein, voilà. Donc, voilà, parce que je continue à penser que si on doit s'inscrire dans la durée, il faut travailler en bonne intelligence. C'est-à-dire, on ne peut pas aller essayer de piller un club phare autour, en faisant des offres qui seraient problématiques pour le club. Donc voilà, on a toujours eu ce partage-là. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Il y a
un côté,
donc, voilà,
un peu tutorat quand même, quasiment.
Voilà, peut-être un peu, oui, pourquoi pas. Oui, c'est dans cette optique-là que je m'inscris. Et voilà, et avant d'avoir contacté un joueur, j'en ai toujours référé aux personnes de la section la section concernée. Voilà, donc, et puis qui c'est eux qui m'ont dit, voilà, ces joueurs ne seront pas conservés. Et voilà, à partir de là, moi, je me suis permis de les contacter. Donc, voilà, donc il y a eu ce contexte régional. Il y a bien sûr un contexte national un peu plus qui est sous la houlette de Guy Laporte, hein, c'est-à-dire que lui se focalise un peu plus sur le recrutement au niveau de niveau national et même international, hein, puisque on a quand même un Fidjien et des Géorgiens. Donc voilà, c'est plutôt lui, après qu'on se soit conseillé, mais c'est plutôt lui qui est en rapport direct avec les agents notamment, voilà, et puis qui m'en réfère derrière. Et Philippe Auroux et moi qui sommes plus sur la partie régionale et parce que je pense que la suite logique pour un club comme Grouillé, c'est un, la formation. Mais la formation, il faut réamorcer la pompe. Et ce que l'on est en train de faire, il y a un travail énorme qui a été fait par des grands anciens comme Henri Auriol et d'autres anciens comme Rémi Poujade ou la famille Bio. Voilà, il y a tout un tas, j'en oublie sans doute, mais il y a beaucoup de bénévoles et d'éducateurs qui sont en train de faire un boulot énorme au niveau de Grouillé pour relancer cette belle mécanique qui a été à l'œuvre pendant des années, hein, au Sporting Club Grouillétois. Et à partir de là, je pense qu'à partir du moment de la formation, il faut s'appuyer sur des jeunes, tout simplement, parce que les jeunes, on ne peut aujourd'hui toucher des joueurs de talent que des joueurs de talent en devenir à Grouillé. On peut pas toucher des joueurs de talent confirmés, parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement, de prendre un Mathieu André, par exemple, à Grouillé. On n'aura pas les moyens financiers, tout simplement, de récupérer un joueur de cette qualité-là ou un Bastien de Dieu, voilà, ce type de joueur-là. On n'a pas les moyens aujourd'hui de se les payer à Grouillé. Donc, il faut partir sur des Mathieu André ou des Bastien de Dieu, mais jeunes.
Avec des joueurs
perfectibles. Voilà. Et je pense que ces joueurs-là, quand on les trouve et quand on leur propose un projet intéressant, ben, ça peut fonctionner. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec un garçon comme Guillaume Caz, par exemple, dont tu me parlais, parce que lui nous a donné un accord définitif et voilà. Donc, je peux en parler. Oui, effectivement, c'est des joueurs qui vont apporter une plus-value au club et qui vont nous permettre de passer un cap, quoi.
Un joli pied gauche qui va venir illuminer Pélissou.
Voilà. Il y en a d'autres qui sont en gestation. J'espère qu'ils vont venir aussi. Mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Donc, je ne peux pas me permettre de te donner des noms de joueurs qui n'ont pas encore donné un accord définitif. Voilà. Donc, c'est pour ça. Mais il y aura d'autres surprises de cet ordre-là, c'est-à-dire des joueurs.
Ça me donnera l'occasion de revenir faire un tour à Grouillé pour voir ce qui se passe au mercato.
Voilà. Mais voilà, notre objectif, il est là, à deux niveaux, c'est-à-dire le niveau régional, où on s'articule sur deux gros pôles que sont le Castres Olympique et le Sporting Club Albigeois. Et au niveau national, oui, on va essayer d'aller chercher des joueurs un peu plus loin. Et même au niveau international, où là, c'est notre deuxième. Mais nos deuxièmes possibilités, on essaye quand même de retrouver une identité grouillétoise avec des joueurs formés au club qui sont pour certaines parties un peu à droite à gauche et qui souhaiteraient revenir parce que le projet leur convient. Et là-dessus, on fait aussi un gros effort, c'est-à-dire on essaye de récupérer un maximum de joueurs formés à Grouillé pour retrouver un peu de cette identité grouillétoise.
Allez, avant-dernière question, on parlait du derby avec Albi. Il a failli y avoir un nouveau derby aussi en Fédéral 1, c'est Gaillac-Grouillé, puisque Gaillac a hésité longtemps à monter en Fédéral 1 et ça lui a été proposé, mais les joueurs ont préféré rester au chaud en Fédéral 2. Ça aurait eu de la gueule quand même ce derby entre Gaillac et Grouillé. Il y a une histoire entre les deux clubs aussi.
Mais je regrette énormément la décision des Gaillacois de ne pas monter en Fédéral 1, d'abord parce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont passés que j'ai eu à Albi, dans cette équipe, hein. Je pense au petit Lessière, et le petit Lessière qui a 30 et quelques années maintenant, mais voilà, que j'ai eu dans l'effectif albigeois, Julien Vélo, qui sont, pour ne citer qu'eux, qui sont des ou Raph Merentiel, qui sont des anciens albigeois, que j'aurais toujours plaisir à revoir sur un terrain. Et puis après, je pense que c'était là aussi, en parlant de fête du rugby, si on avait réussi à avoir, tu parlais tout à l'heure, là, je fais abstraction de la Pro D3 et de toute objectivité sportive. Mais si on avait réussi à avoir Albi, Lavaur, Mazamet, Gaillac, Grouillé dans la même poule, c'était quelque chose d'extraordinaire pour le rugby tarnais. C'est-à-dire que voilà, on aurait eu ces derbies où les déplacements ça dépasse pas 30 kilomètres et toute une nation tarnaise qui se serait déplacée pour voir ces matchs-là. Pas obligatoirement le jour de Gaillac-Grouillet, pas obligatoirement que des Goyacois ou des Grouilletois. Ça aurait sans doute été des Albigeois, des Vauréens, des Mazamétains, et inversement. Il y aurait eu le jour où il y aurait eu Mazamé à voir, ben, il y a beaucoup de Grouilletois, d'Albigeois qui seraient allés voir ce match-là. Donc c'était vraiment, je pense, une belle fête du rugby si ça avait été le cas. C'est pour ça. Bon, je regrette, on a dit tout à l'heure, je le regrette, mais en toute subjectivité, là, par contre, le fait qu'Albi se retrouve en Pro D3, même si elle le mérite amplement et même au-dessus, mais parce que c'est toujours une belle fête pour nous, mais je regrette aussi que les Gaillacois aient pas accepté, parce que là aussi, ça aurait été une belle fête pour le rugby tarnais, quoi. Voilà, c'est derby, c'est ce qui fait aujourd'hui l'essence même du rugby amateur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça dans le rugby amateur, je ne parle pas du rugby professionnel ou qui est passé à autre chose, mais dans le rugby amateur, s'il n'y a pas ça, ben ça devient un peu plus fade, même si les matchs sont d'une grosse intensité, mais le derby garde une saveur particulière, quoi. Et notamment quand tu as la chance de peut-être te retrouver avec 5 clubs de fédéral 1 dans le même département, ce qui, je crois, est unique ou quasi unique en France.
Oui, je sais qu'en Côte d'Or, ils auraient pu avoir 3 clubs, mais 5 clubs en fédéral 1 de même département, ça commence à faire épais, comme on dit. Ça montre la richesse aussi du rugby tarnais.
Voilà.
Allez, dernière question. Il y a un an et demi, tu nous disais, à Pélissou, il manque une étincelle, il manque une petite brindille pour que l'âme revienne, qu'on sente que tout ce stade se remette à vibrer. Une belle aventure sportive, une belle aventure humaine, des victoires qui s'enchaînent, un du manoir qui arrive et des phases finales. Il peut être là, l'étincelle, et puis ça pourrait être aussi un beau cadeau envoyé au ciel pour Beka, puisque je sais que vous vouliez vous battre pour le maintien en son hommage, en son nom. Là, peut-être cette année, aller chercher une qualif en du manoir, ça pourrait être quelque chose qui est fédérateur pour ce groupe.
Oui, alors oui, bien sûr, ça serait bien sûr la cerise sur le gâteau. Après, j'ai toujours été coutumier du fait de dire qu'il fallait, évoluer palier par palier. Le premier palier à passer, c'est le maintien. Quand l'équipe est maintenue, ben on passe à la qualification. Quand l'équipe est qualifiée, eh ben on vise la finale. Et quand on est en finale, on vise la montée. Voilà. Donc oui, je supplie tout à fait à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que oui, ça serait une belle chose pour le rugby. Je suis sûr que le rugby grouilletois, sans parler de phase finale, mais juste une belle saison avec un maintien dans le ventre mou et une bataille jusqu'à la fin pour la qualification, qui j'espère pourrait basculer dans notre camp, ça serait une très 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 belle chose pour le rugby grouilletois qui renaîtrait de ses cendres, j'en suis sûr. Avec les hommes qu'on a, on a la possibilité de le faire. Maintenant, est-ce que la mayonnaise va prendre? Il y a tellement de vecteurs qui rentrent en ligne de compte dans le rugby actuel que voilà, on n'est jamais sûr de rien. Mais tu parles d'or, c'est-à-dire que si on arrivait à ce stade-là, c'est-à-dire à se maintenir très tôt et à jouer la qualification là aussi jusqu'au bout, ça serait une explosion de joie pour une ville comme Grouillet qui vibre pour son rugby, même si depuis quelques années elle est dans la souffrance. Ouais, je crois que ça pourrait être un beau feu d'artifice si au niveau de la ville, je parlais, si l'équipe arrivait à se qualifier, bien sûr, mais déjà à se maintenir de façon plus qu'honorable.
Bon, ben Jean-Christophe, on n'a plus qu'à te donner rendez-vous en juin 2021. Nous, on viendra regarder avec le Max Sport Radio LBGS si le volcan endormi grouilletois s'est réveillé au mois de juin. En phase finale du manoir, c'est tout le mal qu'on souhaite au rouge et noir du Sporting Club grouilletois, ce club historique du rugby français qui a une âme et qui est en train de se battre pour revenir à un niveau qui pourra faire, on va dire, exalter les supporters et les joueurs.
Merci Loïc et bonne journée à tous.
Bonne journée. Sur ce Max Sport touche à sa fin et sera bien sûr réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux ainsi qu'en rediffusion sur le 95.4, 104.2 sur la FM. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, chers auditeurs. Et puis, on vous dit rendez-vous vendredi à 16h pour de nouvelles aventures avec le Maxport. Toujours plus haut, toujours plus fort. Allez, adesias et gardez l'antenne sur Radio Albigès.
Burning like embers, crawling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke up if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you.
Tell me all the love. Les rues se sont vidées, vidées.